au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Peut-on trouver plus beau sujet? C'est d'amour que nous allons parler dans cette émission. Mais pas de n'importe quel moment de l'amour, non. Des préliminaires, des premiers pas, des manœuvres d'approche. Bref, nous allons parler de séduction et de conquête amoureuse. Puisque mon invité, Jean-Claude Bologne, philologue de formation mais historien de métier, a publié à l'automne 2007 aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers historique, une histoire de la conquête amoureuse. Amoureuse de l'Antiquité à nos jours. Jean-Claude Bologne, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Vous allez devenir, si ce n'est déjà fait, le grand historien spécialiste de l'amour sous toutes ses facettes, puisque vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont une histoire de la pudeur, une histoire du mariage en Occident, une histoire du sentiment amoureux et une histoire du célibat. On discerne rapidement que l'amour est tout de même un champ de vos recherches historiques.
Ah oui.
On ne peut pas le nier.
Essentiellement le sentiment amoureux. D'ailleurs, il y a une chose qu'on me demande régulièrement et que je refuse tout aussi régulièrement, qui est une histoire de la sexualité. Il y en a eu tellement, je n'ai rien ajouté et ce n'est pas le sujet qui me passionne. Mais le sentiment amoureux est beaucoup plus intéressant à analyser.
Voilà. Et là, c'est très précisément dans ce livre une approche historique, donc des stratégies amoureuses pour séduire celui ou celle que l'on veut séduire. Alors, première question que l'on pose à tout historien, comme il se doit. Quelles sont les sources à votre disposition pour établir cette histoire de la conquête amoureuse?
Alors, comme tous les sujets d'histoire des mentalités, les sources sont extrêmement nombreuses et je dirais que pratiquement tout devient source, que ce soit l'histoire en tant que telle, les documents, les archives judiciaires, le cas échéant, les mémoires, les correspondances, la littérature, l'iconographie. Donc il faut surtout essayer de maîtriser ces sources et de trouver la source centrale. Et là, ce que j'ai choisi comme corpus principal, ce sont les manuels de séduction. J'ai consulté 111 manuels de séduction depuis l'art d'aimer d'Ovide jusqu'à nos jours, jusqu'à 2007.
On en écrit encore aujourd'hui ?
Et parmi ces 111, presque la moitié date des 25 dernières années. Depuis 25 ans, depuis les années 80, on publie en moyenne 2 manuels de séduction par an. On ne le sait pas suffisamment, mais effectivement,
non,
il
voilà,
y a un énorme
nombre de
marché.
De livres qui ont échappé à ma vigilance.
Et effectivement, dans ce corpus, ce que j'ai essayé de voir, d'une part, s'il y avait des évolutions, quelles étaient les constantes, mais surtout si ces conseils des auteurs de manuels étaient appliqués dans les petits exemples que l'on pouvait trouver, ou étaient utilisés par les écrivains. Et relire, par exemple, Madame Bovary à la lueur des manuels de séduction et de l'histoire de la séduction au XIXe siècle est passionnant, parce que tout y est.
Jean-Claude Bologne, avez-vous une bibliothèque de séduction avec plein de manuels de séduction dans votre bibliothèque ?
Oh, dans ma bibliothèque, j'ai à peu près 15 millions d'ouvrages, puisque la Bibliothèque nationale est mon deuxième domicile. J'y suis plus souvent que chez moi.
Jean-Claude Bologne, regardons aussi le vocabulaire, c'est-à-dire les mots pour dire la conquête amoureuse, la séduction. Au fil des siècles, bon, ça a porté différents noms, du libertinage au flirt. On a utilisé des verbes différents. Alors j'ai appris grâce à vous qu'on pouvait alourder une femme.
Oui,
ce que ça veut dire.
Ce n'est pas très élégant, mais c'est le terme de l'ancien français faire la cour aux femmes. On alourde les femmes. C'est le terme qu'on trouve en tout cas dans certains un texte, comme on trouve le verbe galer.
Galer.
Dont il nous restait galant. Ça a été un
Comté véritable... Fleurette, ça on le connaît, Comté
Alors,
Fleurette.
À partir du XVIe siècle, on les connaît mais
mieux.
Ils sont difficiles à utiliser. Comté Fleurette, c'est un côté un peu désuet, un peu ridicule. Fleureté, qui est l'étymon de l'anglais flirter, a un côté... lui n'est plus du tout utilisé. Et flirter, et
une très utilisée en 1960 encore,
oui. Mais c'est une connotation anglo-saxonne qui n'est... Mm-hmm. Donc le problème, quand j'ai abordé ce sujet, était de trouver un mot qui corresponde à toutes ces étapes de la séduction, c'est tout ce vocabulaire historique de la séduction. Le sujet, au départ, pour moi, le défi que je m'étais lancé, était de faire une histoire de la drague.
J'aimais pas ce mot draguer, mais vous l'utilisez beaucoup dans votre livre.
Lorsque l'on parle aujourd'hui d'une séduction consciente et ciblée, c'est le terme drague qui s'impose. Mais on ne peut pas dire, par exemple, on peut pas dire que Casanova draguait, mais si on dit que Casanova Comte et Fleurette, c'est pas cela. Mmh. Aujourd'hui, Comte et Fleurette, ce n'est pas...
Ça ne s'attache pas à ce siècle-là.
Ça ne s'attache pas à ces méthodes qui sont beaucoup plus... Mmh. Si on dit que Rétif de la Bretonne courtisait, galantisait, ça paraît très gentil, alors que ce sont des approches très directes que l'on qualifierait aujourd'hui de drague. En revanche, le mot drague est très caractéristique des années 1950-1960. Il est indissociable de toute une série d'évolutions de la société, que ce soit l'émancipation de la femme, les congés payés, les clubs de vacances, mais aussi les progrès de la contraception, voire de la pénicilline, de tout ce qui a permis de dédramatiser les relations sexuelles. Et la drague ne peut pas être séparée de ce contexte. De même, le dating, qui était le mot des années 1920, ne peut pas se comprendre sans le téléphone et la voiture. Le flirt, qui est apparu dans les années 1880, est indissociable de la société de loisirs qui se met en place, les paquebots, les stations thermales, etc. Et on pourrait remonter avec le marivaudage, la galanterie, le libertinage, l'amour romantique. Chaque époque a son vocabulaire parce que chaque époque a un contexte différent.
On sent que vous aimez les mots, Jean-Claude Bologne.
C'est ma formation de philologue qui revient.
Alors, malgré tout, et malgré ces vocables différents et ces apparences de changement, les techniques de séduction sont-elles finalement les mêmes au fil des siècles ?
Alors, il y a des choses qui changent et des choses qui demeurent, bien entendu. Certains types sont éternels. Le timide et l'audacieux s'opposeront toujours dans l'histoire de la séduction. Il y a des gestes que l'on fait depuis au moins l'Antiquité romaine. Faire du pied sous la table, rouler une œillade en coin, tout cela sont des techniques éternelles. En revanche, il y a des contextes qui changent et donc qui font que les techniques doivent évoluer. Par exemple, le cadeau, qui est la plus ancienne technique de conquête. Dans l'Antiquité romaine, on ne peut adresser ces déclarations d'amour qu'à des affranchis ou à des étrangères, mais certainement pas à de dignes matrones romaines, ni à des filles de bonne famille, qui sont en puissance paternelle, le cadeau doit être un cadeau précieux. En revanche, dans l'amour courtois, où l'on s'adresse nécessairement à une supérieure, le cadeau précieux serait malvenu. Et là, on commence à voir le cadeau symbolique. La manche, le mouchoir, le cœur, le don du cœur, etc., qui aboutit au cadeau personnel d'une mèche de cheveux ou d'un portrait. Donc, il y a une évolution dans la conception du cadeau qui dépend des circonstances de l'époque. Un autre exemple qui est très parlant, pour rencontrer une jeune fille, puisque en général c'est dans ce sens-là que ça se passe, il faut un lieu public. Et donc les lieux de spectacle ont été extrêmement utilisés. Mais il y a une technique effectivement qui est assez récurrente. Il vaut mieux emmener une jeune fille voir une pièce ou un film tragique plutôt que une histoire comique.
Ah.
Mais pourquoi ? Alors, dans l'Antiquité, on vous expliquait que les tragédies étaient dédiées à Eros, amour, l'amour, Cupidon, et donc que, puisque l'amour venait des flèches que Cupidon tirait dans le cœur de la jeune fille, il valait mieux aller avec elle à la tragédie. Au XVIIIe siècle, on vous expliquait que toutes les tragédies étaient des histoires d'amour contrarié, donc ça savait pleurer la jeune fille à côté de vous, et on pouvait lui expliquer pourquoi il fallait absolument que Rodrigue et Chimène devaient finalement se rencontrer. Donc il y avait avait une explication psychologique et non plus théologique. D'accord. Aujourd'hui, on vous explique que l'hormone, la fameuse phényléthylamine, PEA, est sécrétée à la fois dans les situations de stress et dans les situations d'énamoration, d'amour. Et donc, il peut y avoir confusion de sentiments lorsque une jeune fille sous l'effet du stress commence à sécréter les hormones PEA. Elle peut confondre ce sentiment avec un coup de cœur pour son voisin. Alors, une explication pseudo-scientifique. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Bien entendu, ce n'est pas le fait que telle ou telle explication soit plus juste qu'une autre. Je ne crois pas du tout, pas plus au PEA qu'aux flèches des roses. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une constante dans les méthodes, dans les techniques, dans les analyses, mais avec des explications et des références différentes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui importe au jeune homme qui veut séduire une jeune fille, c'est de prendre confiance en lui. Et il est rassuré à l'époque antique de savoir qu'il a un Dieu puissant avec lui. Il est rassuré aujourd'hui de savoir que la science est avec lui. Et ce qui est important là-dedans, c'est le fait d'être rassuré.
Vous insistez sur l'importance de connaître les codes. Non seulement il faut les connaître, c'est-à-dire ce qui se fait, ce qui ne doit pas se faire, ce qui ne se fait pas, autant pour les hommes que pour les femmes. Mais non seulement il faut les connaître, mais en plus il faut faire savoir qu'on les connaît.
Oui. Le gros paradoxe de la conquête amoureuse, ou un des gros paradoxes, on en a un certain nombre, c'est que pénétrant dans l'intimité, finalement, de celui qui, celle qui vous fait face, elle a toujours un côté un peu agressif. Et donc, il faut se masquer, avancer masqué. Mais si on avance trop masqué, la tentative est vouée à l'échec, bien entendu. Donc, il faut mener la barque de la séduction entre ces deux écueils, qui est une approche trop directe et perçue comme agressive et une approche trop large, trop polie, qui ne serait pas comprise. Et pour cela, les codes sont bien entendu un très précieux secours et recours. Le 19e siècle, qui était l'époque des codes par excellence, les a multipliés à l'infini, que ce soit le langage des éventails, le langage des pieds, le langage des cœur, le langage des timbres, de tout ce que vous voulez, que ce soit les codes extrêmement rigoureux du bal qui était le grand lieu.
Ah oui, racontez-moi ça m'a beaucoup
siècle.
Amusé, ça, le bal, le carnet de bal.
Oui, ce sera encore tout un
chapitre.
Tout un chapitre, effectivement. La danse est un de ces lieux où depuis toujours on peut rencontrer des gens du sexe opposé, mais on ne peut pas les aborder de la même manière selon les époques. Dans l'Antiquité, par exemple, on ne connaît que des danses sexes séparés. Donc on ne peut séduire qu'en montrant son agilité, mais on ne peut pas entrer en contact avec l'autre sexe. Les danses en couple apparaissent essentiellement au XVIe siècle, mais ce sont des couples ouverts. Alors, quand vous tenez une jeune fille du bout des doigts et que vous dansez doctement la pavane, ça ne va pas très loin. En revanche, lorsqu'au XIXe siècle apparaît la valse, c'est-à-dire une danse fermée, un couple fermé, extrêmement rapide, donc il fait tourbillonner la tête des jeunes filles, il y a danger. Vous imaginez des jeunes filles sortant de leur couvent, qui n'ont jamais rencontré d'homme de leur vie, qui vont tout à coup être projetées dans la lumière, alors qu'elles ont vécu dans l'ombre d'un couvent. Les épaules dénudées, alors que dans la journée, elles ont le collet jusqu'au ras du menton. Et pendant 5 minutes, elles sont dans les bras d'un homme qui les fait tourner à toute vitesse en lui débitant des mots d'amour à l'oreille.
Quelle merveille !
Il y a là, pour les familles, un énorme danger. D'où l'importance des codes, et nous revenons à ces codes, effectivement, qui vont vous canaliser cette relation en obligeant la jeune fille à avoir dans une main son éventail et dans l'autre le pan de sa robe, le garçon à avoir ses gants et son chapeau à la main. Vous évitez déjà les gestes incongrus. En obligeant les jeunes filles à accepter la première danse qu'on leur propose sous peine de ne plus pouvoir danser de toute la soirée, vous évitez le plus grand écueil de la timidité qui leur fut. Et en obligeant les jeunes gens qui se plaisent à ne danser ensemble qu'une seule danse par soirée, Vous multipliez les occasions de rencontre et donc vous évitez la cristallisation stendhalienne, parce qu'en fait, le bal est né dans la suite de toutes les réflexions de Stendhal sur l'amour. Et vous évitez que cette jeune fille ne focalise tout à coup, ne cristallise sur le premier garçon avec lequel elle aura dansé. Et puis, il y aura, parce que nous sommes toujours dans les codes, la danse de fin de soirée, le cotillon, où là, c'est la seule danse pour laquelle la jeune fille peut inviter dans certains pas un garçon. Et c'est l'occasion, pour les parents qui surveillent bien entendu, de voir lequel des danseurs avec lesquels elle a dansé toute la soirée, elle préfère. Donc tout cela est effectivement extrêmement codé et ces codes sont essentiels pour que le timide puisse se lancer et pour que l'audacieux soit
freiné dans ses élans. Ça, c'était donc pour les codes. Alors, Jean-Claude Bologne, vous avez évidemment divisé votre livre « Histoire de la conquête amoureuse » en siècles, en 7 chapitres, donc de la préhistoire et de l'Antiquité à nos jours. Mais est-ce que ce découpage en siècles n'est pas un peu artificiel ?
Oh, il est absolument étonnant. Bien entendu, j'ai pris un ordre chronologique parce que sur un sujet aussi pointu que le premier pas, parce que c'est cela mon sujet, la conquête amoureuse, l'étude thématique comme j'avais prise dans l'histoire de la pudeur, l'étude thématique n'est pas tenable. Donc j'ai une découpe par période. Quand on parle de siècles, effectivement, l'Antiquité c'est 15 siècles, le Moyen-Âge c'est 10 siècles, mais il y a un découpage par période.
Ça permet de s'y repérer.
Ça permet de s'y repérer, de ne pas trop se répéter, tout en étant que sur certains thèmes spécifiques, j'ai repris de petits sous-chapitres thématiques. Sur la danse, par exemple, j'ai fait 2 petits sous-chapitres sur la danse. Sur la séduction en voiture, en carrosse, en fiacre, j'ai tout concentré sur un seul sous-chapitre. La séduction à l'église aussi, qui traverse
les âges. Ah oui, l'église est un grand lieu de séduction. J'ai découvert ça dans votre livre.
Quand vous avez des jeunes filles très surveillées qui ne sortent pas de chez elles et qui ne sortent de chez elles que pour aller à l'église, eh bien, il n'y a qu'à l'église qu'on peut leur parler d'amour ou leur glisser des mots d'amour. Il y a tout un art de glisser des poulets, des billets dans l'accoudoir des jeunes filles, de les coller avec un petit peu de cire en se disant que la chaleur du bras va faire fondre la cire et que le poulet tombera sur leurs genoux.
Jusqu'où va se nicher le désir de séduire. Alors, Jean-Claude Bologne, vous pourfendez aussi des clichés. Il y a des clichés que vous n'aimez pas du tout dans votre livre. Le premier de ces clichés, le Moyen-Âge a inventé l'amour courtois. Ça n'est pas vrai.
Qu'il a inventé l'amour courtois, oui.
Moyen-Âge.
Mais que le Moyen-Âge ait appris aux hommes à parler aux femmes, je dirais que c'est un lieu commun totalement erroné. D'une part, parce qu'il existait des choses bien auparavant. Les Grecs et les Romains ont appris l'art d'aimer et tout le Moyen-Âge a recopié l'art d'aimer d'Ovide, qui allait bien plus loin dans l'art de s'adresser à des jeunes filles. Mais surtout parce que l'amour que l'on dit courtois, le terme est un terme du 19e siècle, l'amour, le fin amour médiéval, s'adresse à une femme supérieure socialement, et ça, c'est la base de l'amour courtois. Le trouvère s'adressera à la femme de son seigneur, et le seigneur s'adressera à la reine. Si donc il a un respect énorme, absolu, quasi mystique pour la femme, ce n'est pas en tant que femme, c'est en tant que supérieure sociale.
Inaccessible, femme, d'une certaine
et
façon.
Inaccessible. Et en tant que femme, il a un profond mépris pour la femme. Ce n'est que parce que la femme est supérieure socialement qu'il a besoin du respect. Ce n'est pas parce qu'elle est femme. Donc là, l'amour courtois ait appris aux hommes à respecter les femmes, c'est totalement faux. On respecte la suzeraine. En revanche, lorsque il y a une relation d'égal à égal, par exemple dans le mariage, il n'est plus du tout question d'amour courtois, puisque saint Paul a dit que l'homme était le chef de la femme. Il n'y a pas de raison qu'on adresse des déclarations respectueuses à quelqu'un dont vous êtes le chef. Et lorsqu'il y a une relation d'infériorité entre un noble chevalier, une paysanne, une chambrière, une servante, là, il n'y a même pas besoin de prendre des façons. Les pastourelles nous racontent tout simplement que que le chevalier a renversé la bergère sur le foin, et d'abord Courtois, il n'en est plus du tout question. Donc c'est un cliché sur lequel j'émets les plus nettes réserves, tout en étant que je reconnais que nous sommes redevables de beaucoup de choses à l'amour courtois, ne serait-ce que le geste de s'agenouiller pour prier une jeune femme de l'aimer, de donner son amour, un geste très romantique, mais qui nous vient tout droit de l'amour courtois, puisque c'est l'hommage vassalique que l'on doit à sa suzeraine. Le silence aussi, c'est cette idée qu'un vrai amoureux se reconnaît à son silence et non pas à ses belles paroles, c'est une idée qui vient aussi de l'amour courtois, la volonté de garder secrète une liaison. La séduction par la lecture, le partage de la lecture, donner un roman d'amour à une jeune fille pour l'émouvoir, c'est une grande technique romantique, mais qui nous vient aussi de l'amour courtois. Donc il y a quelques petites choses qui nous restent de cette époque, fort heureusement.
Ça veut dire, Jean-Claude Bologne, que selon la position de la femme dans la société, la stratégie de conquête amoureuse va être différente. Et alors, aujourd'hui, où la position de la femme n'est plus du tout évidemment celle qu'il y avait dans les siècles précédents, notamment parce qu'elle a la liberté de dire oui ou de dire non, est-ce que ça change et qu'est-ce que ça change ?
Ça change tout, bien entendu. Avec un petit peu de provocation, j'ai dit que finalement la drague était très républicaine, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on a opposé à la séduction, à la drague ? On a toujours une image très négative du séducteur jusque dans les années 60 et puis du dragueur à l'époque actuelle. Une image très négative parce qu'on a toujours l'image de celui qui détourne du droit chemin. Mais qu'est-ce qu'on a à opposer au séducteur ? Il y a le viol, il y a le rapt et il y a le mariage arrangé. Je ne vois pas de quatrième possibilité. Dès que on reconnaît à la femme le pouvoir de dire non, il faut qu'on la séduise. Si c'est le père qui a le droit de dire non, il y a un mariage arrangé et c'est le père qu'on séduit, ce n'est pas la femme. Si on ne reconnaît ce pouvoir ni à l'un ni à l'autre, eh bien, on enlève la femme ou on la viole. Mais la séduction commence au pouvoir de dire non, donc à la liberté. Elle commence aussi à l'égalité, puisqu'il n'y a pas besoin de séduire une inférieure. On la paie ou on fait du harcèlement. Mais ni le harcèlement ni la prostitution ne sont de la conquête amoureuse. Liberté, égalité, la drague et la séduction se sont développées dans des républiques, d'abord, effectivement, la République romaine est le premier endroit où on a parlé ouvertement de séduction, et la Troisième République en France a été la championne, s'est faite la championne du mariage d'amour et de la séduction. Ça pouvait même aller plus loin, puisque Cicéron compare la façon dont un démagogue séduit le peuple à la façon dont un amoureux séduit une jeune fille. Donc, effectivement, la séduction commence au pouvoir de dire non. Ce pouvoir a été théoriquement reconnu à la femme depuis très longtemps, je dirais, depuis Rachel et Jacob dans la Bible, qui est la première histoire d'amour de notre littérature, de notre culture. Mais il faut bien se rendre compte que la femme n'a eu droit qu'à des techniques passives de séduction. C'est déjà beaucoup et c'est très important, parce que un homme ne va faire le premier pas que s'il sent que le premier pas sera bien accepté. La plupart des cas, ce n'est pas le refus n'est jamais agréable. Donc, s'il n'y a pas ces techniques passives, les techniques actives ne vont pas se mettre en place. Mais les femmes qui essayaient d'avoir des techniques actives de séduction, de faire le premier pas, la première déclaration, le premier geste, le premier baiser, ont toujours été extrêmement méprisées. On pouvait avoir des relations courtes avec elles, mais certainement pas les choisir comme épouses. Et c'est ça la grande conquête.
Ça continue, ça, à votre avis ?
C'est la grande
Le schéma
conquête,
a changé.
Dirais, le schéma c'est infléchi.
Infléchi, mais pas vraiment changé.
Il n'a pas totalement changé depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis que la femme a conquis son indépendance légale, tout simplement. L'émancipation de la femme, c'est 1965 en France, le fait de pouvoir signer un chèque sans l'autorisation de son mari. Depuis que la femme peut exercer des métiers plus valorisants qu'infirmière ou assistante sociale au début du siècle peut avoir des métiers parfois supérieurs à ceux des hommes, socialement supérieurs à ceux des hommes. Les mentalités ont changé et on a vu, alors, dans mon corpus des manuels de séduction, on a vu effectivement apparaître des techniques actives chez les femmes. Je dirais que depuis quelques années, on constate un net recul dans les conseils de techniques actives et dans certains cas, un retour en force d'un machisme qu'on avait pu croire ringardisé dans les années 1990. Il y a notamment, par le biais d'Internet, un retour d'un machisme pur et dur qui est inquiétant, je trouve inquiétant.
Alors, si vous voulez tout savoir sur ces techniques de séduction amoureuse, il faut lire donc « Histoire de la conquête amoureuse de l'Antiquité à nos jours » par Jean-Claude Bologne. C'est publié au Seuil dans la collection L'Univers historique. Mais Jean-Claude Bologne, si on consulte votre bibliographie, on trouve bien d'autres titres qui ne sont peut-être pas si éloignés parce qu'au fond, la naissance interdite, ça évoque l'avortement, la stérilité. Bon, ce sont les conséquences de l'amour. Et puis, il y a un titre qui m'a beaucoup amusé qui s'intitule « Une de perdue et 10 de retrouvée », mais là, qui n'a aucun rapport avec l'amour, parce que c'est l'autre champ de vos recherches historiques, c'est-à-dire l'histoire, véritablement, les allusions historiques, puisque c'est une autre émission que nous ferons ensemble.
Ben, très volontiers, oui, parce que je suis aussi linguiste. Là, c'est mon petit terrain de linguiste, que j'ai publié des dictionnaires d'allusions chez Larousse, un certain nombre de dictionnaires. C'est le quatrième, je pense, que je publie là.
Donc, on se retrouvera avec Jean-Claude Bologne dans une future émission Au fil des pages pour évoquer ces allusions historiques, dont l'une des plus célèbres, qui même me suivent, on revient à l'amour. Merci Jean-Claude Bologne.
Merci à vous.